19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par les groupes angevins d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette émission consacrée aux droits humains. Pour animer cette émission, il y a Sophie et Philippe. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir, ravi de vous retrouver.
Et bonsoir également à Pierre, à la technique.
Bonsoir.
Dans cette émission, nous entendrons Adrien de la Fédération étudiante des associations de l'Anjou. Puis nous parlerons de l'actualité et nous finirons par l'agenda militant et culturel. Mais attention, il y aura aussi une petite surprise. Mais d'abord, nous commençons par l'éditorial de Sophie sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Oui, en effet. Depuis le 24 février, Amnesty documente les violations des droits humains et du droit international humanitaire dans le pays. Nos enquêteurs ont analysé les photos, des vidéos et des images satellites d'attaques qui ont causé la mort de milliers de civils, dont des enfants, dans différentes villes en Ukraine. Elles ont visé les lieux protégés comme des hôpitaux, des habitations et des écoles. Le bombardement de la maternité de Mariupol a suscité l'effroi. Les forces russes ont eu recours à des armes frappant sans discrimination, comme par exemple des missiles balistiques qui ont une très large portée dans des zones à forte densité de population. Elles ont également utilisé des armes interdites telles que des bombes à sous-munitions. Tous ces actes sont susceptibles de constituer des crimes de guerre qui sont des violations des lois et coutumes de la guerre définies par les conventions de Genève et de la Haye. Aussi, 39 États ont demandé au procureur de la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête.
Et on assiste parallèlement à un verrouillage complet de la société russe.
Non à la guerre, ce slogan des milliers de citoyens la scandent dans les villes russes pour s'opposer à l'invasion d'Ukraine. Mais la police disperse les rassemblements en ayant recours à la force et arrête de nombreux manifestants. Selon l'ONG OVD Info, plus de 13 600 manifestants pacifiques ont été arrêtés au moins dans 67 villes et villages de Russie. Les autorités russes durcissent la répression, censure sévère des médias, menaces de blocage de sites internet, journalistes muselés, arrestations de manifestants. L'emploi du mot « guerre » est interdit. Le gendarme russe des médias a ordonné de n'utiliser que les informations émanant de sources officielles dès qu'elle couvre l'invasion de l'Ukraine. Toute infraction à cet ordre pourrait entraîner le blocage des sites internet concernés et une amende allant jusqu'à 56 000 euros.
Mais face à ce désastre, que propose Amnesty ?
D'abord, la protection des civils doit être la priorité absolue. Les attaques aveugles et l'utilisation d'armes interdites telles que les armes à sous-munitions doivent être proscrites. L'accès des organisations humanitaires aux zones de conflit doit être autorisé et facilité pour porter assistance à la population civile. Les pays voisins de la région doivent se tenir prêts à accueillir les réfugiés dans des conditions dignes et faciliter l'accès à l'asile pour toutes les personnes fuyant l'Ukraine, quelle que soit leur nationalité. Les acteurs de la société civile russe et bélarusse opposés à la guerre doivent aussi être soutenus et protégés par tous les moyens possibles.
Et l'Europe alors, quelles sont les mesures qu'elle met en place ?
Pour la première fois, l'Union européenne a décidé d'activer la directive de 2001 sur la protection temporaire pour les réfugiés. Elle permet aux personnes qui en bénéficient de recevoir une protection immédiate dans les pays de l'Union. Elles pourront obtenir rapidement un permis de séjour, travailler, disposer d'un hébergement approprié, recevoir une aide sociale lorsqu'elles ne disposent pas de ressources suffisantes, avoir accès à des soins médicaux, à l'éducation et à la formation professionnelle.
Et alors, est-ce que c'est totalement satisfaisant ?
En limitant cette aide principalement aux Ukrainiens fuyant le conflit, le Conseil a montré les limites de la solidarité européenne. L'Europe dispose depuis longtemps des outils nécessaires pour protéger les personnes fuyant la guerre et aider les nouveaux arrivants. On voit donc que l'approche habituelle de l'Europe forteresse est un choix politique. Ce désastre humanitaire montre clairement qu'il existe deux poids, deux mesures. Il revient maintenant aux États membres de décider d'étendre cette protection aux réfugiés afghans, syriens et africains. Le moment est venu de changer radicalement notre politique migratoire.
Merci beaucoup Sophie. vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM. Et nous allons maintenant accueillir Adrien, qui est le trésorier de la FEDESA, c'est-à-dire la Fédération étudiante des associations de l'Anjou. C'est bien ça ?
Oui, c'est exact.
Merci d'être avec nous ce soir, Adrien.
Merci à vous de m'avoir invité.
Bienvenue, Adrien.
Bonjour.
Alors, parmi les dispositifs mis en place par la Fédération, c'est Agorae qui nous a particulièrement intéressés. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, bien sûr. L'Agorae est une grande fierté pour la FEDESA. C'est l'instauration d'une épicerie solidaire dans le quartier de Belbeil qui permet à tous les étudiants qui le demandent, sous dossier, de pouvoir bénéficier d'une aide alimentaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent entrer dans cette épicerie et payer 10% du prix initial des produits.
D'accord.
Quand tu dis aide alimentaire, c'est que alimentation ou il y a aussi les produits d'hygiène ?
Il y a aussi les
produits aux jeunes femmes aussi,
première nécessité.
Hein,
donc, par exemple, le choix qui a été fait dans l'Agorae de mettre les protections hygiéniques gratuitement à disposition pour les femmes, enfin pour toutes les personnes en fait qui viennent au sein de l'Agorae.
Et vous avez combien de bénéficiaires ?
Actuellement, nous sommes à peu près un peu plus d'une soixantaine. Nous avons pour projet forcément d'étendre le plus possible cette aide au plus d'étudiants qu'ils demandent.
Alors, elle existe depuis combien de temps, cette épicerie ?
Cette épicerie est relativement nouvelle, puisqu'elle existe depuis septembre dernier. Le projet est pourtant peu récent, puisqu'il date de 2015-2016. Mais nous sommes très heureux d'avoir enfin pu ouvrir ce projet après de nombreuses batailles.
Des batailles contre qui ?
C'est pas des batailles contre
non,
des personnes, mais pour obtenir un local, qui est une chose extrêmement compliquée sur Angers, pour obtenir des moyens, parce qu'une épicerie sans alimentation à l'intérieur, une épicerie vide n'a aucun intérêt. Enfin, c'est une multitude de petites batailles qui doit être menée pour pouvoir ouvrir un tel dispositif.
Donc le local, il est prêté par l'université, je suppose. Tu disais que c'était à la fac de Belbeil.
C'est la ville
qui
nous a trouvé notre local, voilà, ouais. Merci. Et c'est l'université qui, en partie, nous subventionne.
Et comment vous faites pour les moyens que vous avez, pour fournir l'épicerie ? C'est donné ? C'est acheté ?
Ouais,
comment ?
Alors, on a plusieurs méthodes d'approvisionnement. On a une partie qui vient du don, donc par exemple pour la fondation U, qui nous a aidé dans les premiers instants à remplir totalement l'épicerie. Donc on a plein de dons de particuliers, mais on a également donc on fait des achats réguliers auprès de la banque alimentaire et en complément à Métro par exemple.
D'accord.
Et cette épicerie est ouverte tous les jours, accessible aux étudiants ?
L'épicerie est actuellement ouverte le mardi et le jeudi de 16h à 19h.
Ah d'accord.
Et on fera tout ce qui est dans notre pouvoir pour pouvoir étendre ces horaires, ce qui est quand même quelque chose de compliqué puisqu'il faut des bénévoles, ça demande énormément de personnel à côté pour pouvoir ouvrir plus longtemps ces heures.
Juste pour revenir au soutien financier, est-ce que des personnes, des citoyens, des citoyennes peuvent donner, faire des dons ? Soit en nature, soit en argent.
Bien sûr, toute personne peut faire des dons auprès de l'association. Nous avons eu quelques cas de mécénat pour le projet. J'ai l'exemple en tête d'une femme qui m'a dit je cherchais cette année où donner, parce que d'habitude je donne au Resto du Cœur tous les ans. Elle m'a dit, pour une fois, j'avais envie de faire quelque chose de plus local, de plus ciblé pour les étudiants. Elle m'a dit, je me suis adressée à vous. Et elle nous a fait don d'une somme d'argent pour l'association.
D'accord. À la fin de l'interview, tu pourras peut-être redonner vos coordonnées pour que d'autres mécènes viennent vous voir. Tu as dit à un moment, les étudiants sur dossier.
Oui.
Alors, est-ce que tu peux expliciter pourquoi est-ce qu'il faut un dossier et quel type de dossier ?
Donc, nous, ce dossier, il est impératif pour plusieurs raisons. Il nous permet d'être certain que l'étudiant est dans le besoin, puisque sur la totalité des dossiers, nous n'en avons refusé que très peu. C'était uniquement les dossiers que nous avons refusés, c'est des personnes qui étaient employées à plein temps, qui touchaient plus d'un SMIC. Donc, c'était des cas qu'on considérait n'étant pas dans le besoin. C'est sur dossier également pour donner une certaine légitimité à notre action. On a considéré qu'on ciblait les étudiants qui en avaient besoin. Et également parce que ce dossier-là, on doit le présenter auprès d'agents de la CAF. Donc une fois par mois, on se réunit pour pouvoir décider si le dossier est accepté ou non. Nous défendons chacun des dossiers pour que chacun des étudiants puisse y avoir accès. Et d'une autre part, le dossier, il est également pour arrêter le système qui est celui des bourses. Enfin, pas arrêter le système des bourses, mais ce que je veux dire, c'est pas prendre en compte le revenu des parents, mais vraiment la situation de vie des étudiants. D'accord. Parce que ça nous semble important de prendre la réalité des choses. On sait très bien que les étudiants peuvent avoir autant de moyens qu'ils veulent, ce n'est pas forcément le cas de leurs enfants.
Mmh. Oui, je crois que vous avez participé aussi à l'opération Un logement, une nuit.
C'est
Est-ce
un
que
lit
vous pouvez nous parler un petit peu de
un
ça
lit,
oui.
Un lit pour une
Un lit, oui.
Oui, c'est un dispositif qui permettait, donc qui est actuellement clos, qui permettait en début d'année pour les jeunes qui n'avaient pas de logement dans l'immédiat de trouver une solution provisoire pour pouvoir par la suite leur trouver un logement sur une plus longue durée.
D'accord. Et à quoi tient cette difficulté de se loger spécifiquement à Angers?
Spécifiquement à Angers, c'est la population étudiante est extrêmement importante
combien,
en comparaison.
Combien d'étudiants à peu près maintenant?
À peu près, on est entre 40 et 50 000.
C'est absolument énorme.
Donc, on est une des villes où il y a plus d'étudiants par habitant. Donc, du coup, la situation du logement est très particulière puisque c'est une situation presque inédite comparée aux autres villes. Les politiques de création de logements n'arrivent pas à suivre le volume d'entrée d'étudiants au sein de la ville.
Ouais.
Et donc forcément, si la construction d'hébergements ne suit pas, des étudiants sont amenés à se retrouver sans logement ou devoir faire de très grandes distances pour pouvoir étudier.
Ou bien trouver des logements dont le loyer est bien élevé, d'où le besoin ensuite d'être soutenu pour acheter son épicerie, sa alimentation ou autre chose. Enfin, tout ça, ça fait un gros bloc peut-être trop lourd. Tu as parlé de dossier, mais il me semble que ce n'est pas entièrement gratuit, l'épicerie.
Non, c'est pas gratuit. On paye 10% du prix des produits, hormis les produits de première nécessité, donc d'hygiène, qui sont les serviettes hygiéniques par exemple, qui sont gratuits.
D'accord.
Pourquoi ce choix alors de payer un petit peu?
On a considéré qu'on ne voulait pas d'une personne qui arrive, qui prend le plus de choses possible et qui après fait du gaspillage. On est sur une forme de responsabilisation tout de même. C'est-à-dire que on considère que si on faisait des paniers gratuits, il pourrait avoir ce genre de situation. Et on veut aider le plus de personnes possible. On a des stocks qui sont limités. Et donc, du coup, ce système nous semble plus à la frontière entre une participation raisonnable, une responsabilisation et quelque chose de pourtant viable pour tout le monde.
Dans ces étudiants, étudiantes, hélas, en précarité, il y a beaucoup de femmes. Est-ce que vous avez pu voir un petit peu si, hélas, il y avait plus de garçons que de filles ou ça n'a pas été fait, cette étude?
On n'a pas fait l'étude.
D'accord.
En revanche, de ce que je vois en étant à l'épicerie, c'est à peu près 50-50. Il n'y a pas de vrais plus de jeunes femmes ou plus de jeunes hommes.
D'accord. Et l'évolution donc du nombre d'étudiants que tu... Alors là, qui ne vont pas à l'épicerie, hein, parce que je suppose qu'il y en a plus que 60, malheureusement. Constituer un dossier est peut-être un frein pour certains ou certaines, peut-être.
Oui, c'est vrai. Ça peut être un frein. On a essayé de pallier le plus possible en essayant de varier les méthodes, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'avoir un dossier papier. On a fait une traduction en anglais pour les étudiants étrangers qui peuvent avoir des difficultés avec la langue française. On a aussi fait le choix de le mettre en version dématérialisée sur notre site, qui est aussi disponible en français et en anglais. Et on se tient toujours à disposition des étudiants s'ils ont un problème pour faire leur dossier.
D'accord. Et quelle est votre représentativité réelle au sein de l'université?
Au sein de l'université, on a des élus au sein de diverses instances. La dernière en date est au niveau du conseil d'administration et au niveau du conseil de formation de vie universitaire. On représente dans chacune des parties 50% ou plus des élus.
D'accord.
Donc on a une représentativité qui est relativement importante.
Oui, d'accord.
Et
Très bien.
Et autrement, Vous avez fait part que vous aviez des besoins financiers. Est-ce que vous pouvez faire un rappel de la manière dont on peut
vous joindre
pour avoir...
Et vous aider,
bien sûr.
Bien sûr. Actuellement, le soutien financier est important, mais le soutien de main-d'œuvre l'est encore plus.
Ah, c'est, je voulais en parler.
On va vraiment être honnête. Mm-hmm. Donc, il y a plusieurs moyens de nous contacter. Mm-hmm. On a via Instagram avec Fedeza-8 Insta. On a via Twitter avec Fedeza-8 Angers. On a également avec Facebook avec le site Fedeza et via deux adresses mail. Donc on a contact@fedeza.fr. Donc pour Fedeza, c'est F-E, le chiffre 2A.fr.
C'est un petit A ou un grand A? Je sais plus.
C'est un petit A pour l'adresse mail.
D'accord.
Mais
sinon, la dénomination de l'association, c'est un grand A.
D'accord. Mmh.
Et donc, d'accord, bien évidemment, vous pouvez aussi nous retrouver sur le site internet Fedeza.
Et des personnes non étudiantes pourraient venir vous aider à gérer ou à tenir l'épicerie?
Bien sûr, mais en soi, c'est pas l'objectif.
Bah,
on est plus dans un système de pair parce que on a le côté épicerie, mais on a aussi le côté discussion qui est à côté et qui nous semble quand même
bien
important.
Bien sûr, c'est un lieu de rencontre.
Ouais.
Exactement.
D'accord.
Et vous avez d'autres projets, non, Alex, pour finir?
Actuellement,
rapidement,
on a
peut-être
des projets culturels qui sont à côté, tels que le festival Tréma, La Vie en Nylon, le festival Premier Plan qu'on soutient.
Oui, jury étudiant, j'ai vu.
Ouais.
Oui, tout à fait.
Donc, oui, on a une multitude de projets.
On trouvera ça sur votre site.
Exactement.
Bien sûr.
Oui,
merci beaucoup.
Merci
beaucoup, Adrien. C'est l'heure.
Merci d'être venu.
C'est l'heure de notre pause musicale.
Признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може десь у лісах вічер зілля шукала, сонце руту знайшла і мене чарувала. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки повір. Бо твоя правда, то є чистая вода, то є висная вода, синій пір. Бачу я тебе в снах, у дібровах зелених, по забутих стежках ти приходиш до мене. І не треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене. Чистая вода, то є бистрая вода сиві. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене.
Ah, est-ce que vous avez reconnu cette belle langue?
Non.
Vous venez d'entendre une chanson trop ukrainienne.
Ah,
d'accord.
Ah,
voilà, c'est un hommage aux Ukrainiens et Ukrainiennes. C'est une chanson d'amour très connue là-bas qui s'appelle Chernova Ruta, qui a été créée et chantée par Volodymyr Ivatsouk. Voilà, pardon pour l'accent. Vous êtes toujours sur Radio G101.5 FM et c'est le moment des actualités des droits humains.
Depuis 2 ans dans le monde, la violence domestique est en hausse. La précarité de l'emploi s'est aggravée pour les femmes. L'accès aux services de santé sexuelle et reproductive a été battu en brèche. L'inscription des filles à l'école a chuté. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous dénonçons avec force cette dérive inquiétante. La terrible régression de leurs droits en Afghanistan, les violences sexuelles généralisées caractérisant le conflit en Éthiopie, les attaques contre l'accès à l'avortement aux USA. Chacun de ces exemples constitue un grave recul pour les droits des femmes.
10 milliards de doses de vaccins contre le Covid-19 ont été produites l'année dernière, ce qui était largement suffisant pour atteindre l'objectif fixé par l'OMS de vacciner 40% de la population mondiale d'ici la fin de l'année 2021. Pourtant, nous révélons que seulement un peu plus de 4% des personnes vivant dans des pays à faible revenu présentaient un schéma vaccinal complet à la fin de l'année dernière. Autre exemple, Pfizer, BioNTech et Moderna ont perçu en 2021 des revenus allant jusqu'à 54 milliards de dollars et pourtant moins de 2% de leurs vaccins ont été envoyés à des pays pauvres.
Incroyable. On se souvient de Zhang Zhan, je ne sais pas si je le dis bien.
Zhang Zhan,
cette journaliste citoyenne qui a tout risqué en février 2020 pour couvrir la pandémie de Covid-19 lorsqu'elle est apparue en Chine. Pour avoir informé la population, elle s'est retrouvée dans le viseur des autorités et a été emprisonnée. Eh bien, le 28 janvier, Zhang Zhan et sa mère ont pu enfin se parler lors d'un appel vidéo. Et c'est un soulagement lorsque l'on sait qu'il y a quelques mois, elle était entre la vie et la mort. Aujourd'hui, elle peut à nouveau marcher et elle a arrêté sa grève de la faim. Cependant, elle est toujours en prison, injustement. Et nous ne savons pas si elle a accès à des soins médicaux adéquats. Plus que jamais, la mobilisation doit se poursuivre.
La reconnaissance faciale. Cette technologie est en plein essor et séduit de plus en plus d'entreprises privées et de gouvernements. Elle risque d'être normalisée dans tous les aspects de notre vie quotidienne et devenir une arme aux mains des forces de l'ordre. Oui. Cela est très inquiétant pour nos droits. Des villes expérimentent déjà cette technologie. Par exemple, à New York, la police peut suivre à la trace les habitants grâce aux images prises par un réseau tentaculaire de 15 000 caméras de surveillance transférées à des logiciels de reconnaissance faciale. Ou bien en Inde, à Hyderabad, l'une des villes les plus surveillées au monde. Il est devenu presque impossible là-bas d'y marcher sans risquer d'y être exposé.
Les autorités algériennes ont intensifié leur attaque contre la société civile des dernières semaines. Elles tentent de réprimer les manifestations du Yirak, un mouvement de protestation de masse demandant un changement politique. Elles ont arrêté des milliers de militantes et militantes, des défenseurs des droits humains et de journalistes. Les ont maintenus en détention provisoire et les ont déclarés coupables d'infractions définies en des termes vagues, notamment de terrorisme. D'après le Comité national pour la libération des détenus, 290 personnes languissent actuellement dans les prisons algériennes pour avoir simplement exprimé pacifiquement leurs opinions.
Retour en Ukraine. L'Observatoire de la liberté de création affirme son plein et entier soutien aux artistes ukrainiens et prépare une initiative en ce sens. Cependant, nous sommes informés de demandes de limogeage d'artistes russes et de demandes de boycott des œuvres d'artistes russes dans les concerts, festivals ou théâtres. Eh bien, nous tenons à rappeler fermement les principes qui nous unissent, la liberté de création et la liberté de diffusion des œuvres. Personne ne saurait en être privé en raison de sa nationalité. Ce serait confondre des hommes et des femmes et le gouvernement de leur pays et méconnaître les risques que prennent bon nombre d'artistes russes actuellement pour affirmer leur refus de la guerre ou leur refus du régime qui les contraint parfois jusqu'à la prison.
Depuis plus de 2 ans, nous menons campagne pour que les autorités françaises rendent des comptes et fassent enfin preuve de transparence sur les ventes d'armes de la France. Cette transparence est indispensable pour que les parlementaires, garants incontournables du débat démocratique, puissent jouer leur rôle et exercer un meilleur contrôle de ces ventes. Or, depuis des années, nous faisons face à un silence assourdissant de leur part. Aujourd'hui, nous dénonçons l'omerta, la langue de bois, la politique de l'autruche auquel nous faisons face. La France continue de pratiquer un système opaque, tant dans la teneur de ses contrats que dans la destination de ses armes ou encore les processus de décision. Un système entièrement entre les mains de l'exécutif et étroitement lié aux grands industriels de l'armement. Le prochain président ou présidente devra placer au cœur de ses préoccupations le fait que la représentation nationale puisse débattre en toute connaissance de cause sur ce commerce, pas comme les autres.
Et une dernière nouvelle en provenance du Chili, où Gabriel Boric est officiellement devenu vendredi dernier le plus jeune président de l'histoire de ce pays. Son gouvernement, qu'il veut écologiste, féministe et à la forte empreinte sociale, est composé en majorité de femmes, notamment au poste régalien de l'intérieur, de la défense et des affaires étrangères. De son côté, l'Assemblée chargée de rédiger la nouvelle constitution a voté ses premiers articles. Le plus emblématique est probablement celui qui fait du Chili un État régional, plurinational et interculturel, composé d'entités territoriales autonomes. Pour rappel, l'actuelle constitution date de la dictature de Pinochet et ne reconnaît ni l'existence ni le droit des nations autochtones présentes sur le territoire bien avant la création de l'État chilien.
Et on va passer tout de suite à la surprise. Aujourd'hui, nous vous offrons le premier épisode de l'histoire d'Amidou, une histoire recueillie par notre amie Céline sous la forme d'une chronique. Écoutez bien.
Alors Valérie, pour cette nouvelle chronique, je voulais te raconter une histoire particulière, une histoire plus longue que celle que je raconte habituellement. Celle d'un de ceux qu'on appelle les MNA, mineurs non accompagnés. Dénomination froide et administrative si pratique pour désigner celles et ceux qui quittent tout, même leur famille, pour partir très jeunes vers l'Europe. Aujourd'hui, je voudrais te raconter l'histoire d'un jeune homme que j'ai rencontré. Il s'appelle Amidou. Né dans une famille ivoirienne, son histoire est en même temps la sienne et celle de beaucoup d'autres. Son père, plus âgé que sa maman, est déclaré mort en 2006, quand il n'est encore qu'un bébé. Elle se remarie quand il a 4 ou 5 ans avec un homme dur qui refuse qu'il aille à l'école et préfère le destiner aux travaux des champs. Pourtant, l'école, il en profitera en cachette, parce que sa mère connaît l'institutrice. Les deux femmes l'aident clandestinement. Mais il sait qu'il n'ira pas au collège, surtout lorsque son beau-père décide de l'envoyer dans une école coranique au Mali. C'est en 2018, il a 14 ans, et il apprend qu'un groupe se prépare à partir en Europe. Dans ce groupe, il y a le grand frère d'un de ses copains. Le jeune homme refuse de l'intégrer dans un premier temps, car il le trouve trop jeune. Il prendra cependant soin de lui tout au long du voyage. Nous sommes en décembre, en 2018. Amidou ne préviendra personne de son départ. Il leur faudra un mois pour faire le trajet entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Ils emprunteront des bus, des voitures, traverseront les frontières à pied, se cacheront le jour, marcheront la nuit. Ils seront à la merci des passeurs qui les laisseront seuls une fois la frontière algérienne franchie, leur indiquant oralement le chemin jusqu'à Tamanrasset. Ils resteront presque 4 mois en Algérie, à Alger plus particulièrement. Amidou se cache pendant que les grands travaillent. Il réussira quand même à travailler un peu pour payer le reste du voyage. Il préviendra sa mère qu'il est vivant et qu'il s'en va rejoindre l'Europe.
Voilà le début de la belle histoire d'Amidou. La suite à notre prochaine émission dans un mois. Et c'est le temps de notre agenda militant et culturel.
Pour les 20 ans de l'association Al-Kalmanjati à la Maison pour tous de Montplaisir, l'orchestre arabo-andalou de l'Anjou jouera le samedi 19 mars à 18h.
Le dimanche 20 mars à 15h30, concert piano solo de Tristan l'Official, c'est à la Chapelle des Ursules au profit de France Terre d'Asile.
Semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme à l'université, avec le 21 mars à 18h, une conférence du célèbre sociologue Michel Vivorca, Métamorphose du racisme, de l'antisémitisme et de l'antiracisme. Le 22 mars à 18h30, projection du documentaire Les faussaires de l'histoire sur le négationnisme, suivi d'un débat avec Valérie Higounet, qui a coécrit ce reportage. Le 23 mars à 18h, conférence de la professeure Gwenaël Calves sur les discours racistes, sexistes ou homophobes. Que dit le droit? Que peut le droit? Pour connaître les différents lieux, fac de lettres et fac de droit, allez sur le site de l'Université d'Angers.
Merci beaucoup Philippe. Et il est déjà presque 19h30, le générique va bientôt arriver. arrivés. C'est le temps de conclure cette émission et de remercier Adrien pour sa venue à l'émission. N'hésitez pas à réécouter cette émission en replay sur le site www.radio-g.fr et vous pouvez également nous rendre visite sur Facebook sur la page d'Amnesty.Angers. Bonne soirée et vivons joyeux.
Bonne soirée.
À bientôt.
Bonne soirée.